Bonsoir à toutes et à toutes. Routes et autoroutes bloquées, grandes surfaces et préfectures attaquées, la colère des agriculteurs ne faiblit pas et le mouvement bénéficie du soutien de 9 Français sur 10, au point que l'exécutif laisse faire, pas question d'intervenir pour lever les barrages. Reste à savoir maintenant si les propositions de Gabriel Attal apporteront une réponse au malaise des agriculteurs qui se disent assommés par des normes et une concurrence déloyale qui les empêche de vivre décemment. C'est dire si ce sujet est brûlant. Nous sommes tous des paysans, a lancé mardi à l'Assemblée nationale le député PS de Meurthe-et-Moselle sous les applaudissements de tout l'hémicycle. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Agriculteurs, premier test pour Attal ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Porcher. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage, « Mon dictionnaire d'économie », c'est aux éditions Fayard. Audrey Goutard, grand reporter, spécialiste des faits de société à France Télévisions. Aurore Gorius, vous êtes journaliste indépendante, spécialiste du lobbying et de l'influence. À lire votre dernier livre, « À l'oreille des politiques », c'est une coproduction « Les jours » et la revue dessinée. Et enfin, Jérôme Jaffré, vous êtes politologue et chercheur associé au CVPOF. Merci de participer à cette émission en direct. Jérôme Jaffré, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le baptême du feu pour Gabriel Attal, qui, pour reprendre l'expression de Dominique Bussereau, l'ancien ministre de l'Agriculture, dit « Gabriel Attal, c'est plus un rat des villes qu'un rat des champs ».
Ah, c'est sûr que l'enfant des beaux quartiers parisiens et l'élu des Hauts-de-Seine, il plonge dans le bain de la France rurale, de la France agricole. Donc pour lui, c'est un test décisif. On pensait que ce serait la déclaration de politique générale, qui soit dit en passant d'ailleurs beaucoup, beaucoup attendue, puisqu'elle n'aura lieu que le mardi 30 janvier, 3 semaines après sa nomination. C'est considérable comme écart, mais en vérité, c'est aujourd'hui la capacité de parler aux agriculteurs, de comprendre, de montrer à la fois qu'il comprend leurs problèmes et qu'il essaye d'y répondre, et qu'en même temps, il ne cède pas sur tous les sujets de la politique environnementale, de la politique économique, ni des objectifs que l'agriculture française doit se donner. Donc c'est un exercice où il faut non seulement séduire, communiquer, mais aussi marquer son autorité et des limites.
Alors, son autorité, Audrey Goutard, on a quand même un gouvernement qui marche sur des œufs et qui laisse faire. On a vu quand même des images assez violentes, un sanglier éventré, on a vu un Leclerc à côté d'Agen dont le toit s'est écroulé parce que les agriculteurs ont jeté du lisier. Et on a face à cela un ministre de l'Intérieur qui nous dit je laisse faire à la demande du président de la République. Attention, pas touche, ce sont des agriculteurs fragiles.
Oui, en fait, c'est la grande histoire entre les gouvernements et les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, effectivement, sont capables d'avoir des actions extrêmement violentes, mais en même temps, ce sont les agriculteurs, contrairement, par exemple, aux gilets jaunes, ce sont des citoyens qui ont l'habitude de discuter avec le préfet, d'avoir il y a des maires qui sont d'ailleurs sur les points de manifestation. Bref, il y a tout un réseau, tout un faisceau qui fait que, et puis ils sont ultra syndiqués, donc ils sont raisonnables tant qu'on les tient, effectivement, et pour le moment, le gouvernement assure qu'ils sont tenus par leurs syndicats. Donc, effectivement, il y a une marge de négociation. On a l'impression, en fait, qu'il y a un scénario. Depuis que Gabriel Attal a reçu les syndicats à Matignon au début de semaine, effectivement, on a l'impression qu'il y a un scénario assez bien rodé entre bon, bah, on vous laisse manifester, on vous laisse exprimer votre colère, on la comprend, on est dans le temps de la négociation. On verra ensuite, mais n'allez pas trop loin. Et d'ailleurs, les syndicats font en sorte qu'effectivement, ça n'aille pas trop loin.
Ils sont révoltés plus que révolutionnaires. C'est en ce sens qu'ils ne font pas peur, ou moins peur que les Gilets jaunes ou d'autres types de manifestants.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les citoyens, finalement, les aiment beaucoup et qu'on retrouve de très bons sondages, même au moment où, effectivement, on voit les images que nous voyons là à l'antenne. C'est-à-dire que, les agriculteurs, lorsqu'ils manifestent, ils ne manifestent pas pour des raisons politiques, ils ne manifestent pas pour renverser la table ou pour prendre le pouvoir. Ils manifestent. La manifestation, ou même ces actes très violents que l'on voit là, c'est l'expression et c'est un moyen pour eux, en tout cas, d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est catégoriel. C'est par rapport à on veut un résultat, on veut quelque chose. Ça n'est pas pour renverser le gouvernement, ce qui est assez rassurant pour un Gérald Darmanin et un gouvernement.
Alors il n'empêche, Thomas Porcher, très compliqué de prendre, de circuler aujourd'hui en France. D'ailleurs, les rues de Paris sont vides, hein, parce que c'est très difficile de rentrer dans Paris. Et les Français soutiennent massivement, 9 Français sur 10. Et puis même, on a l'impression qu'on met de côté les clivages politiques. Mardi dernier, à l'Assemblée nationale, il y a ce député PS de Meurthe-et-Moselle qui, au détour de son discours, lâche cette phrase, un peu improvisée et saisie par l'émotion. Il dit « Nous sommes tous des paysans » et tout le monde se lève. On va regarder la scène.
L'émotion est vive. Aujourd'hui, même si j'ai des pudeurs à le dire, je veux redire mon attachement. Je voudrais vous dire simplement que je suis paysan, mais que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous paysans.
Baigné dans autant de difficultés.
Écoutez, oui, je pense que la conjoncture actuelle est très difficile pour un bon nombre de Français. Et on se rend compte que ce que nous disent les agriculteurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur profession. C'est
et ça, ils la travaillent.
Et ils travaillent beaucoup. Et la deuxième chose, et c'est là qu'il y a un point commun avec les Gilets jaunes dans les revendications, dans les raisons, c'est le sentiment d'injustice qu'il y a. Ils disent, alors les Gilets jaunes, c'est une injustice fiscale, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient une taxe, alors qu'il y avait eu des baisses de fiscalité par ailleurs sur les plus riches, sur les entreprises. Et là, sur les agriculteurs, c'est cette idée de dire, voilà, vous nous mettez des normes, des législations, et en même temps, vous signez des traités de libre-échange avec des pays qui ont des normes sociales et environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc il y a une forme d'injustice. Donc on n'arrive pas à vivre de notre travail, alors qu'on produit un bien particulier, hein, qui sont des aliments, c'est pas du textile. Et en même temps, il y a une injustice parce que vous nous imposez des normes et ça devient très compliqué. Donc moi, j'arrive à comprendre que c'est l'agriculture, c'est particulier, que les Français y soient attachés. Et après, ce qui est assez marrant, et là, on peut le comparer avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça se passe 6 à 7 mois avant les européennes. Ah. Comme la dernière fois.
Les européennes, c'est souvent un moment, la campagne des européennes, dangereux.
Bah là, la campagne des européennes a l'air d'être beaucoup plus importante que la dernière fois, d'un point de vue politique. Emmanuel Macron n'a pas envie de laisser ce scrutin au Rassemblement national. À gauche, on ne sait pas qui encore va y aller complètement. Alors, il y a Raphaël Glucksmann qui est parti, mais il n'a pas encore été adoubé complètement par le PS. Au niveau de la LFI, on ne sait pas vraiment qui va être là. Donc, on se rend compte que pour la NUPES, pour le Rassemblement national, mais aussi pour Emmanuel Macron, c'est un scrutin qui est important. Donc je comprends que dès qu'il y a un mouvement comme ça, tout le monde essaye finalement un peu de s'approprier le mouvement, même si les raisons de base sont des raisons que tout le monde est obligé de partager. C'est pas normal qu'un agriculteur n'arrive pas à vivre de son travail, et c'est pas normal qu'il y ait une telle injustice, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un poulet sur deux qui soit importé, un tiers des légumes qui sont importés, et deux tiers des fruits qui sont importés.
Et Aurore Gorius, je parlais de peut-être la culpabilité qu'on ressent tous au fond de nous-mêmes face à cette situation des agriculteurs, parce que quand on fait nos courses, il faut le dire, hein, on achète le moins cher, et en plus, on veut du sans glyphosate, hein, c'est-à-dire qu'on est les premiers, pour nos enfants, à leur donner à vouloir et à exiger des raisins sans pesticides.
Pesticides. C'est toute la difficulté, toute la contradiction d'essayer de mettre en place une transition vers une transition écologique, vers une agriculture plus saine et plus verte, dans un contexte où, ça vient d'être très bien rappelé, les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, ou très mal leur vie, quand ils travaillent. Donc c'est une équation extrêmement compliquée. La FNSEA tient le mouvement, mais il faut aussi dire que la FNSEA est très contradictoire là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers au niveau européen à lutter contre le verdissement de la PAC qui assure quand même...
– Elle défend les pesticides, pour faire simple.
– Beaucoup, elle défend l'agriculture intensive, elle s'oppose en grande partie très régulièrement à cette transition verte qui est nécessaire, qui est demandée par les consommateurs, mais qui est aussi le modèle de demain, et qui fait prendre du retard aussi à l'agriculture française. Donc on est dans une contradiction de la FNSEA, qui d'ailleurs là a récupéré le mouvement, parce que ça n'avait pas démarré avec les syndicats. Les premiers mouvements sur l'A64 entre Bayonne et Toulouse n'étaient pas des mouvements qui venaient de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs. C'était beaucoup plus spontané, contre une taxe d'ailleurs, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes, hein, contre le GNR et la fin de la niche fiscale du GNR, le gasoil non routier qui rentre qui permet aux agriculteurs de faire tourner leur tracteur, et aussi les engins de chantier, mais aux agriculteurs c'est les tracteurs. Et donc là aussi, on est sur un mouvement qui a démarré sur une taxe plus verte, Mais il faut rappeler que le GNR, la suppression de la niche fiscale, elle était prévue, elle a été négociée, elle est négociée avec la FNSEA, elle est prévue jusqu'en 2030. Donc c'est quelque chose qui a été étalé, annoncé. Donc voilà, c'est ce jeu de la FNSEA qui sent bien que parfois il faut lâcher des choses en termes de durabilité, de verdissement, et en même temps, qui est sur un modèle d'agriculture intensive, ses propres adhérents sont beaucoup là-dessus aussi, et qui du coup n'organise pas, alors qu'elle a quand même 200 000 adhérents, qu'elle représente une grande partie du monde agricole, qu'elle représente quand même plus de 50% des élus dans les chambres d'agriculture, donc elle a une responsabilité vis-à-vis du secteur agricole, et elle s'oppose assez largement à cette
évolution.
Elle
témoigne de la difficulté à changer de modèle.
À changer de modèle, et elle ne va pas forcément dans ce sens-là, et elle n'accompagne pas forcément les agriculteurs dans ce sens-là.
Alors, Gabriel Attal a donc fait le déplacement en Haute-Garonne cet après-midi pour faire des annonces. Au même moment, des convois d'agriculteurs convergent vers Paris afin de mettre toujours plus de pression sur le gouvernement. Les propositions du Premier ministre suffiront-elles à calmer la grogne? Élément de réponse avec Romain Besnénou, Emmanuel Bach et Juliette Perrault.
Il a le sourire un peu crispé, des déplacements scrutés de près. Gabriel Attal dans une ferme de Haute-Garonne pour tenter de répondre à la colère et au ressentiment du monde paysan. Des mesures très attendues, alors que partout en France, la pression monte ces dernières heures. Cet après-midi, à 30 km de Paris, ces agriculteurs franciliens s'organisent sur l'autoroute A6.
Donc l'idée, c'est pas tout bloquer. L'idée, c'est pas de... À Paris, c'est déjà la merde sans qu'il y ait un tracteur sur l'autoroute. Donc en fait, si vous mettez... et qu'on se met à tout bloquer, si vous voulez, en fait, ça va être congestionné. Et le risque, c'est qu'en fait, qu'on perde de la crédibilité dans notre mouvement.
Des précautions pour que le message soit le plus audible possible.
Si vous voulez, il y a un sentiment de déclassement, un sentiment de perte de dignité dans le métier, une perte de sens. Les agriculteurs, quels qu'ils soient, du sud, du nord, de l'ouest, en fait, ne savent plus ce qu'on attend d'eux. Et le problème, le malaise, il est celui-là aujourd'hui en France.
Un malaise exprimé au grand jour depuis une semaine, partout sur les routes de France. Ce matin encore, les autoroutes A7 et A9 étaient bloquées sur 400 km entre Valence et Perpignan. Du jamais vu selon la société Vinci. Cet après-midi, l'étau se resserre autour de Paris. Sur l'A6, mais aussi l'A13, la Nationale 14, l'A16 et au niveau du péage de Saint-Arnoux. Des blocages, mais aussi des actions coup de poing. Hier dans l'Hérault, le parking de ce supermarché a été labouré. Le goudron a été retourné. La grande distribution dans le viseur des agriculteurs, accusée de ne pas respecter la loi Egalim et de s'enrichir sur leur dos. Une colère entendue, assure Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie annonce ce matin un doublement des contrôles et de nouvelles sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles.
Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Faute de quoi, ils seront sanctionnés à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. Je serai intraitable sur le respect strict, plein et entier de toutes les dispositions de la loi Egalim.
Au même moment, les organisations syndicales, elles, continuent de faire pression.
La mobilisation agricole est sans précédent, avec un niveau de détermination que, pour ma part, je n'ai jamais vu. Voilà, donc ça oblige tous les responsables à être au niveau. On a encore une fois fait notre travail, tout le monde est sur la brèche, tout le monde est tendu, tout le monde est fatigué, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est de repartir dans son exploitation. Mais pour ça, il y a un préalable, c'est la réponse.
Le gouvernement devrait en tout cas revenir sur la hausse de la taxe du GNR, le gazole non routier. Pour beaucoup d'agriculteurs comme Kevin Brouillard, cette augmentation le 1er janvier dernier a été catastrophique.
Moi, j'ai une exploitation, j'ai 290 hectares. La taxe qu'ils nous redonnent, moi, c'est à peu près 5-6 000 euros à l'année. Donc c'est pas négligeable, surtout avec les conditions actuelles où les prix ont vachement baissé. Ils nous retirent encore du chiffre d'affaires, donc au bout d'un moment, non, ça va mal se passer au bout d'un moment.
La réponse du gouvernement sera-t-elle à la hauteur des attentes? Une crainte que le mouvement de contestation finisse par échapper aux syndicats. Cet après-midi, le bâtiment de la Mutuelle Santé Agricole à Narbonne a été incendié. Certains représentants reconnaissent être parfois dépassés.
Malheureusement, on a aussi des agriculteurs à l'heure actuelle qui sont désespérés. Et vous savez tout comme moi, que quand vous avez des gens désespérés qui arrivent sur des manifestations, c'est aussi difficile pour nos responsables de les contrôler.
Une séquence politique aux multiples enjeux pour Gabriel Attal et son nouveau gouvernement. La FNSEA communiquera sur la suite de la mobilisation ce soir à 20h.
Thomas Porcher, question de Bruno. Si les agriculteurs n'avaient pas bougé, qui se serait inquiété de leur sort? C'est vrai que la campagne là où les noms des villes étaient retournés, bon, on a regardé ça d'un air amusé. Et finalement, on a commencé à écouter les agriculteurs dès lors qu'ils ont bloqué les autoroutes.
Oui, mais ce n'est pas un problème qui date d'hier, c'est un problème récurrent. Moi, je me souviens, en 2014, les prix du lait avaient chuté très fortement, de 40%. Et là, il y avait des agriculteurs aussi qui avaient manifesté. C'est quand même un problème récurrent parce que ça fait des années qu'il faut revoir ce modèle agricole. Il faut vraiment comprendre qu'à l'après-guerre, nous avions des prix garantis, nous avions des quotas en Europe. Les prix garantis ont permis aux agriculteurs d'investir, de se développer à l'export. Ça a très bien fonctionné. Ils ont été exportés dans les pays de l'Est, en Afrique, dans les pays du Golfe. C'est très bien. Mais aujourd'hui, vous avez des pays émergents qui sont très puissants, comme le Brésil. Et en fait, la mondialisation nous est revenue en pleine tête.
Donc, la mondialisation qui, dans un premier temps, a été bénéficiaire aux agriculteurs, ouais, maintenant leur revient en concurrent déloyal.
Ne l'est plus du tout. Ne l'est plus du tout. Et qu'est-ce qu'on demande aux agriculteurs? D'être de plus en plus compétitifs, avec des normes à respecter, avec des réglementations à respecter. Pour être productif, il faut des investissements. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont joué le jeu de la productivité, de la compétitivité, mais ils sont devenus de plus en plus pauvres. Parce que vous savez, quand vous produisez des aliments, encore une fois, ce n'est pas comme du textile. Ce n'est pas parce que les pommes sont deux fois moins chères qu'on va en consommer deux fois plus. Ouais. Vous voyez, donc l'élasticité n'est pas parfaite. Donc les prix baissent et le surcroît de consommation n'est pas là. Et puis après, il y a eu à partir des années 2000 quelque chose qui a encore compliqué la vie des agriculteurs, c'est la financiarisation des matières premières. Avant, une matière première agricole,
il y avait un tarif.
Mais voilà, il y avait une offre, une demande, des fondamentaux à connaître, un risque géopolitique, un risque avec la météo. Sauf qu'aujourd'hui, les matières premières sont un produit financier. Et quand vous avez des produits financiers comme le Goldman Sachs Commodity Index, qui prend 24 produits, du pétrole, du gaz, des métaux précieux, mais aussi des matières premières agricoles, et ben ça devient un produit financier avec une très forte volatilité qui va se connecter, par exemple, à la politique monétaire américaine, donc qui est complètement déconnectée de la réalité. Et donc, vous êtes... Quand vous êtes un producteur, vous êtes dans une forte instabilité. Vous avez la concurrence internationale, les prix qui sont extrêmement volatiles, et vous avez aussi
On commence sa saison, on ne sait pas à quel prix on vendra son blé. Il peut y avoir très bonnes années ou des années où vous allez brader
votre production. Tout à fait. Votre blé, votre lait, et vous devez faire des investissements de long terme qui vont être rentables sur le long terme avec une forte volatilité. Et à cela, si vous ajoutez l'instabilité réglementaire, ça devient catastrophique.
Jérôme Jaffré, pour revenir sur la question de Bruno, sur si les agriculteurs n'avaient pas bougé, qui se serait inquiété de leur sort? Est-ce qu'il y a un moment quand même où Gérald Darmanin, qui est quand même responsable de la libre circulation des Français, va s'inquiéter de ce que les autoroutes sont bloquées ou de ce que les préfectures, celles d'Agen, a quand même été attaquées? Enfin, ce sont la puissance publique, là.
Vous avez raison, on arrive à un point limite. Hein. D'abord, la question de Bruno est juste. C'est-à-dire qu'en France, nous ne sommes pas capables de négocier avant la crise. Il faut l'explosion pour qu'ensuite, on cède un certain nombre de choses, faute d'avoir des procédures correctes de négociation avant. Le problème agricole, les uns et les autres, vous venez de le souligner, il n'est pas d'aujourd'hui. Il n'a pas... voilà. Donc, on est dans une situation, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, effectivement, la différence... Audrey l'a souligné, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement professionnel. Et on n'a pas, si vous voulez, les Gilets jaunes, c'était contre Macron, le référendum d'initiative citoyenne. Et c'était une révolte politique extrêmement forte, extrêmement... Là, nous sommes dans une révolte professionnelle. Et les agriculteurs ne demandent pas que les autres syndicats ouvriers viennent les aider, surtout pas, il ne faut pas mélanger les choses.
Vous ne croyez pas à la convergence des luttes que cherche à organiser la CGT quand elle dit les pêcheurs, les travailleurs du bâtiment, les salariés doivent se joindre à cette colère agricole?
Alors, la CGT montre sa combativité, sa présence comme syndicat de référence, mais n'a pas vraiment les moyens de mettre en œuvre ce qu'elle dit. Là où vous avez raison, c'est qu'on atteint quand même un point limite. Les agriculteurs, leur mouvement est formidablement populaire. Cette popularité leur permet d'obtenir enfin un certain nombre de choses qu'ils réclamaient et que, très probablement, Gabriel Attal va annoncer un certain nombre de choses attendues. Vous avez parlé du carburant, du GNR. Évidemment, c'est le genre de choses qui est sur la table, incontestablement. Mais il faut que la popularité demeure. Et donc, le blocage du pays, c'est quelque chose qui ferait perdre très vite aux agriculteurs leur popularité. Cette façon de tourner autour de Paris sans jamais vouloir rentrer dans Paris est vraiment amusante à cet égard. Hein. Symboliquement, je trouve d'ailleurs qu'il devrait y avoir un certain nombre de tracteurs autorisés à aller sur les Champs-Élysées pour montrer que la ville n'est pas interdite. Sinon, il n'y a que la province qui déguste et Paris serait complètement à l'abri. Et vous avez raison, Gérald Darmanin, il pousse le bouchon très loin en disant que face à la souffrance, on n'envoie pas les CRS. Oui, enfin, il y a pas mal de cas où on a envoyé les CRS, y compris face à la
c'est
souffrance.
C'est ce qu'a dit Yannick Jadot. Hein. Si ça avait été des écologistes, aujourd'hui, ils seraient en prison.
Alors, Gérald Darmanin a répondu à d'avance dans son intervention à la télévision hier que les agriculteurs n'envoyaient pas des boules de pétanque à la tête des policiers, etc. Mais on voit bien que ça n'est pas tenable longtemps que le ministre de l'Intérieur dise « Vous semez le désordre dans tout le pays, tout va bien, continuez, c'est pas un problème ».
Audrey Goutard, vous qui êtes habituée
à... Oui, alors les syndicats, on voit qu'il y a un train de mesures qui a été annoncé, qui répond quand même pour l'essentiel.
Alors justement, voilà, allons sur la réponse du gouvernement. Ah. Alors d'abord, Gabriel Attal, sur la forme, on l'a vu arriver de Paris à la rencontre des agriculteurs. Et sur le fond, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la méthode Attal et des propositions Attal ?
Déjà, sur la forme, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il agit finalement de façon assez similaire à son action au ministère de l'Éducation nationale. En fait, dans le discours qu'il vient de faire avec ses annonces, il a tout de suite pris sa part et la part de l'État. C'est-à-dire qu'il dit oui, effectivement, vous avez raison d'être en colère. Et c'est ce qu'il avait fait, souvenez-vous, pour le harcèlement scolaire lorsqu'il avait dit on a fauté. Là, pareil, il dit la vérité m'oblige.
La cause.
Pour chaque article, pour chaque proposition qu'il fait, il démarre par la vérité m'oblige à vous dire que depuis plusieurs années, les agriculteurs sont abandonnés, etc. Et par exemple, pour le GNR dont on parlait dans votre reportage, il y avait le témoignage d'un agriculteur, il renonce au GNR, il renonce
à cette taxation.
Et d'ailleurs, la phrase qu'il utilise est intéressante. Il dit on a construit un truc où on prend d'une main aux agriculteurs 70 millions et on leur rend par un mécanisme que personne n'a compris. Donc là, de nouveau, il assume l'erreur de l'État, n'a compris, c'est même 70 millions. Donc il dit, voilà, on a raté notre truc, tout en soulignant quand même que ça avait été négocié avec la FNSEA. Hein, donc, mais bon, on a raté notre truc. Par exemple, il annonce également, par exemple, le fait qu'on va simplifier trop de décrets préfectoraux qui polluent la vie des agriculteurs. D'ailleurs, il dit qu'un agriculteur doit être dans les champs et pas devant son écran. Eh bien, là aussi, tout de suite, il explique, et c'est assez similaire avec sa stratégie au ministère de l'Éducation nationale, il dit, voilà, j'ai tout de suite parlé avec le préfet du coin et on a déjà supprimé 4 décrets trop compliqués, et on va le faire dans toutes les préfectures. Donc c'est vraiment une stratégie offensive de terrain, et j'allais dire où il s'adresse au bon sens paysan en disant, voilà, on vous a entendu, c'est pas si compliqué à faire, et on a déjà, je crois, 7 ou 8 mesures qui vont être mises en œuvre, dit-il, dans les jours à venir.
Aurore Gorius, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'on renonce ? On renonce à taxer les hydrocarbures, on renonce à introduire des normes environnementales. Au fond, on est face au mur de la transition écologique et on s'aperçoit qu'il est la barrière est trop haute et qu'on n'y arrive pas. Et donc, ou le cheval tombe, ou on enlève la barrière.
Le contexte économique n'aide pas. Hein. Le contexte économique n'aide pas à faire une transition, à implémenter des mesures qui demandent... En plus, alors, c'est vrai que ce n'est pas facile à court terme de taxer plus d'alléger une niche fiscale pour une profession qui a du mal à gagner sa vie. C'est vrai aussi que ce sont des transitions qui, normalement, prennent du temps. Donc c'est pour ça que...
Est-ce qu'on peut dire que les agriculteurs sont les premiers à passer comme ça au défi de la transition écologique et que derrière d'autres secteurs devront réaliser la même transition
sûr.
Et on leur souhaite bien du courage.
Évidemment, il y a d'autres secteurs qui vont devoir le faire. Le transport maritime y réfléchit beaucoup, est déjà engagé dans plein de d'évolutions. Dans l'immobilier, on sait tous que le passoir énergétique pose un grand problème à plein de personnes qui sont propriétaires d'appartements. Il y a plein de secteurs qui sont concernés. Mais c'est aussi pour dire que politiquement, c'est une équation compliquée de faire avancer la cause écologique tout en respectant économiquement et en s'adaptant aux difficultés des secteurs concernés. Et c'est là où finalement, aujourd'hui, on est confronté, enfin, le gouvernement est confronté à une équation compliquée, à un moment quand même, on l'a un peu dit, mais c'est vrai, où le gouvernement est quand même en campagne. C'est-à-dire qu'il y a les élections européennes au mois de juin. La liste Renaissance, en tout cas les intentions de vote à l'égard de la majorité ne sont pas bonnes du tout. Avoir un conflit long, dur avec les agriculteurs sur une question qui est en grande partie européenne, c'est un très mauvais signe. Donc Gabriel Attal, qui en plus vient d'arriver à la tête du gouvernement, est un peu obligé là de lâcher des choses, avec en plus cette empathie dont on a parlé, l'empathie de l'opinion, pour une situation de précarité extrême, de problèmes de revenus, vu le contexte. Et donc, voilà, il faut aujourd'hui lâcher des choses. Et c'est dans cette dynamique-là que Gabriel Attal, visiblement, va plus faire preuve de conciliation avec les agriculteurs que d'autorité, même si, pour ses débuts au gouvernement, il en aurait besoin.
Thomas Porcher, la porte-parole du gouvernement, dit « En fait, on est passé de la norme à la surnorme ». Est-ce que derrière aussi la critique des agriculteurs, il y a les normes de Bruxelles? Et en France, on éprouve un malin plaisir à faire à laver plus blanc que blanc, par exemple à interdire les nicotinoïdes avant l'Espagne, avant l'Allemagne. Ce qui fait que les Français disent ben nous, on ne peut pas être les seuls à respecter des normes qui seraient draconiennes.
C'est exactement ce que vous dites. Et on ne peut pas être les seuls. En fait, le problème, c'est que l'agriculture est ouverte à la concurrence internationale. Aussi en Europe, hein, parce qu'on est en concurrence avec les Pays-Bas pour le lait, avec la Roumanie, avec l'Espagne, avec tous ces pays-là. Et aussi en dehors de l'Europe, avec les traités de libre-échange. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a une agriculture, elle utilise des produits qui sont interdits chez nous. Donc c'est très difficile. Si demain, la transition énergétique, par exemple, sur les bâtiments, il n'y a pas de concurrence internationale, il n'y a pas d'importation de bâtiments. Sur l'agriculture, c'est autre chose. Donc il va falloir un moment que les gens comprennent qu'on ne pourra pas imposer un certain nombre de normes tout en ouvrant nos industries ou notre agriculture au vent de la mondialisation. Je veux dire, c'était dans les années 80, c'était encore possible, et encore à cette époque, nous étions plutôt en position de force, rappelons-le, y compris sur l'industrie. Aujourd'hui, ça va être différent. Si on fait la transition et qu'il y a la mondialisation, ça va être compliqué. Parce que
Même si cette mondialisation, on en profite quand même encore un petit peu, on a 10 milliards de balances excédentaires l'agriculture.
Oui, qui est liée aussi parfois à la hausse de certains prix des matières premières qui ont augmenté notamment en même temps que les prix pétroliers parce qu'il y a ces, comme je vous l'ai dit, ces produits financiers qui font qu'il y a des autocorrélations entre les prix, par exemple, du pétrole et les prix de certaines matières premières. Mais la réalité, c'est si à un moment on veut engager tous ces acteurs dans la transition, il va falloir aussi les protéger. C'est ça que je veux dire. Et ces débats-là traversent aussi même l'Union européenne. Mais est-ce qu'on les protège de l'extérieur ou on doit aussi se protéger de l'intérieur et revenir à ce qu'on avait fait à une époque, c'est-à-dire des quotas par pays? Mais c'est des choses, c'est des pistes sur lesquelles il faut réfléchir.
En fait, il faut être très administré si on veut réussir la transition écologique. Juste, Bruno, dans le Val-de-Marne, Jérôme Jaffray, qui pose la question suivante. Pourquoi le silence assourdissant d'Emmanuel Macron, qui pourtant s'est exprimé sur la loi immigration? Est-ce que la Macronie est à l'aise avec ces sujets de la ruralité?
Ah, écoutez, j'ai vu cette déclaration forte. Emmanuel Macron suit de très près la crise des agriculteurs. Voilà. Mais il y a eu cette formule employée par l'Élysée. Il suit de très près. Ça nous rassure, d'ailleurs, parce qu'effectivement, on pouvait se demander s'il l'a su. Il l'a su à la fois de très loin, donc de l'Inde, et de très près comme sujet. Non, c'est pour Gabriel Attal, le dossier. C'est le test et sur Gabriel Attal. C'est doit être une démonstration. Parce que, d'abord, Attal a un atout fondamental, c'est qu'il y a une bienveillance du pays à son égard. Il vient d'arriver. Il représente une tête nouvelle dans un monde politique qui n'est pas aimé, donc ça, c'est quelque chose, la jeunesse, l'énergie, on considère donc, voilà, et on ne peut pas le maltraiter comme on maltraiterait un politique qui est là depuis des années dans le circuit qui arrive, là, il faut lui laisser sa chance. Donc ça, c'est ça. Et puis, Emmanuel Macron, la démonstration que Gabriel Attal est capable de faire face à une crise de ce type le renforcerait d'une certaine façon en démontrant que son choix a été un bon choix de Premier ministre. Mais si Gabriel Attal rate cette affaire, évidemment, du coup Emmanuel Macron en tout cas reste dans la position classique de la Ve République, celui qui peut intervenir à un moment donné le président pour rattraper la situation si elle devait, voilà, retour d'Inde, si les choses tournent mal ou bien donné la consigne à Gérald Darmanin, publiquement, par Emmanuel Macron, que les blocages doivent maintenant cesser et les choses doivent revenir dans l'ordre. J'attends cela en fonction de l'accueil réservé aux déclarations de Gabriel Attal et le fait de dire, bon, écoutez, la FNSEA peut dire, nous avons obtenu beaucoup de choses et la lutte continue, mais maintenant, rentrons dans nos exploitations. Et Emmanuel Macron fera dire à Gérald Darmanin qu'on ne peut pas continuer à laisser bloquer le pays. C'est comme ça qu'on peut imaginer les choses.
Audrey Goutard.
Dans son expression à l'instant, Gabriel Attal a précisé, donc il évoquait la PAC, il a précisé que le président s'engagerait la semaine prochaine sur la dérogation jachère. Donc cette fameuse
Parce qu'on impose aux agriculteurs de ne pas cultiver 4% de leur parcelle chaque année pour que la terre repose.
Donc on en déduit effectivement une expression du président de la République la semaine prochaine, puisqu'il s'engagera sur cette dérogation. Et Gabriel Attal explique qu'il a demandé à son ministre d'aller à Bruxelles pour trouver des alliés et demander à ce que l'on simplifie effectivement la PAC et surtout... Il a redit que le Mercosur, eh bien, c'était
il est contre le Mercosur. Contre
l'accord du Mercosur. Mais... C'est tellement complexe, effectivement. L'accord du Mercosur, et donc il a redit que la France était opposée totalement à l'accord du Mercosur.
Alors, le Mercosur, c'est l'idée d'un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, Brésil, voilà. Argentine, pour importer massivement du bœuf, etc., en échange de la possibilité pour les Européens d'exporter des médicaments, des automobiles ou des choses comme
ça. Et les agriculteurs sont très vent debout sur cet accord parce que, effectivement, l'Amérique du Sud n'a pas du tout les mêmes normes, notamment sanitaires et environnementales, que celles imposées aux agriculteurs français.
Aurore Gorius, un mot quand même. Pourquoi les agriculteurs à Agen s'en sont-ils pris au centre Leclerc ? On a beaucoup entendu les grands distributeurs dire au combien ils menaient un combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mais est-ce qu'ils ne le mènent pas parfois au détriment, malgré leur démenti, au détriment des agriculteurs ?
C'est aussi une des difficultés de la période. C'est-à-dire qu'en ce moment, la grande distribution essaye d'avoir les prix les moins chers possibles parce que les consommateurs sont confrontés à l'inflation. Et donc, on a vu que ce mouvement, d'ailleurs, avait aussi démarré en Normandie du côté des producteurs de lait qui réclament une hausse de l'achat de leur lait par Lactalis, notamment, un prix qui n'a pas évolué depuis 4 ans, alors que les coûts de production des producteurs laitiers ont augmenté. Donc la grande distribution promet les prix les plus bas possibles et donc essaye de tirer vers le bas un certain nombre de ces prix d'achat, sachant qu'aujourd'hui c'est encadré par une loi, la loi Egalim, mais qui est très mal appliquée.
Il n'y a pas de sanction si on ne la respecte pas.
Alors, d'où aussi les annonces de contrôle supplémentaire par Bruno Le Maire, mais en tout cas c'est un des enjeux forts là, de cette crise. Et pour rebondir aussi sur ce qu'on disait sur la transition énergétique et ce pouvoir qui n'est pas forcément toujours très proche du monde agricole, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron, quand il arrive à l'Élysée, dit « on va supprimer le glyphosate dans les 5 ans ». Et finalement, il a dû revenir en arrière là-dessus parce qu'il s'est pris, évidemment, un tir de barrage de la part du secteur agricole. Donc, en ce moment, cette crise...
On est écolo à Bruxelles et proche de ses citoyens à Paris.
Ça peut être ça. Et puis, on voit à quel point il y a une succession de difficultés autour des agriculteurs, la transition énergétique, le problème des prix, de l'inflation. Et c'est ça que révèle aussi cette crise en ce moment.
Alors, ils ont été parmi les premiers agriculteurs à avoir exprimé leur colère en bloquant les autoroutes du pays. Les bonnets jaunes de la coordination rurale font partie de la branche la plus radicale des syndicats agricoles. Léo Seux et Dominique Lemarchand sont allés à leur rencontre de trois de leurs membres pour comprendre les raisons de leur colère. Vous voyez ce reportage, c'est avec un récit de Constance Meyer.
Dans la nuit, la fumée, les bras zéros et des bonnets jaunes par dizaines. Ce soir-là, plus de 400 agriculteurs bloquent l'autoroute A62. Parmi eux, Raphaël, issu d'une famille d'ouvriers agricoles. À 27 ans, il ne se fait plus d'illusions sur l'avenir de sa profession.
Moi, mon rêve, ça a toujours été le même depuis enfance, et essayer un jour de faire ma propre exploitation, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Il y a certains agriculteurs, quand il faut arriver à la fin du mois pour payer quelque chose, ils sont obligés de payer de leur propre poche, ça veut dire de supprimer leur salaire pour pouvoir le payer. Et ils se retrouvent avec un frigo vide.
Dans la foule, il y a aussi les anciens, comme Jean-Michel Ruchot, habitué des manifestations.
à l'heure, Pascal, parler de nos épopées de 1992. Et tu te souviens aussi que quand on s'est approché du château à Paris, ça a changé de gamme sérieusement. Le président est tout à fait brillant, et il a plein d'idées. Mais en même temps, l'eau et le feu, pardon, mais non, pas en même temps, l'eau et le feu. Il dit une chose, il parle énormément, il dit une chose, il dit son contraire, ses ministres disent le contraire. Non, à un moment donné, il faut un peu de courage.
Lutter nuit et jour. Le lendemain, rendez-vous à la préfecture d'Agen. À la manœuvre, la coordination rurale, le syndicat professionnel majoritaire dans le département, souvent remarqué pour sa radicalité. La réunion avec le préfet s'est mal passée.
Alors, on est venu chercher les annonces, on nous a rien dit. Maintenant, vous êtes tous chargés, tous. Vous savez où sont vos administrations qui vous emmerdent, vos banques. Allez-y, videz devant la MSA, videz devant la DDT, videz au Crédit Agricole, videz partout, prenez les tracteurs.
La préfecture est arrosée de lisier. Les barricades de pneus et de paille incendiées. Toute la semaine, les actions vont se multiplier. Blocage de supermarchés, barrage au rond-point et à la gare d'Agen, coupure d'axe ferroviaire. Rendre la colère visible pour obtenir des solutions concrètes et rapides, c'est l'espoir de Pascal Commandu, éleveuse.
On n'arrive pas à s'en sortir, on travaille 80 heures par semaine. Qui le ferait aujourd'hui de travailler 80 heures par semaine? Voilà. Demandez à tout le monde autour. Voilà, aujourd'hui, on en a marre.
Comme les autres, elle alterne entre la lutte et la traite de ses vaches.
Allez ! Elles me connaissent, elles connaissent ma voix.
Pascal produit du lait depuis une trentaine d'années, mais à l'heure de faire ses comptes pour se dégager un salaire.
C'est très compliqué. C'était très compliqué parce que les matières premières augmentent. Le soja, le prix du soja, l'électricité. C'est triste, hein, parce que il n'y a bientôt plus d'éleveurs.
C'est aussi dans son exploitation que l'on retrouve Jean-Michel Ruchot. Lui cultive des fruits et légumes et redoute une chose, que les annonces du gouvernement ne soient qu'un pansement sur une jambe de bois.
Verser des milliards, comme verser de l'eau dans un puits, ça ne servira à rien. D'abord, le pays est désargenté. Et je crois que le fond n'est pas là. Et c'est sûrement le plus difficile, le fond, c'est de changer de logique. C'est pas une question d'argent, c'est une question de vocation. Comment pouvez-vous supporter dès que vous sortez, n'importe où vous allez, vous faites quoi? Ah, je suis agriculteur, ah les subventions, ah l'eau, ah les pesticides, ah les subventions. Ah. C'est insupportable, c'est insupportable.
Ce matin encore, Jean-Michel s'est levé tôt pour ravitailler le front, des oranges pour les estomacs et du bois pour le feu, de quoi prolonger la bataille.
Alors, question téléspectateur Jérôme Jaffray, qui sont les bonnets jaunes? Sont-ils de droite? Et plus généralement, quelle est la sociologie? Est-ce qu'il y a un vote agricole?
Ah, il y a toujours un vote agricole, hein. Il y a toujours eu un vote agricole, même si aujourd'hui les agriculteurs représentent environ 1% du corps électoral. C'est vraiment très peu. Mais évidemment, ils ont une influence plus grande sur le monde rural, plus globalement. Les agriculteurs sont à droite, globalement, dans leur vote, ils le demeurent. Et ils ne sont pas à l'extrême droite. Hein, voilà, c'est ça qui est aussi un des enjeux de ces élections européennes d'ailleurs. Je note que le Premier ministre, je me suis amusé à regarder comment a voté Montastruc, où il est venu aujourd'hui, Gabriel Attal, faire ses propositions. C'est une commune de 219 habitants en Haute-Garonne, où le Premier ministre est venu faire ses propositions. Alors au premier tour, dans cette commune, Mélenchon a été en tête, suivi de Macron, suivi de Jean Lassalle, qui n'est pas très très loin, et enfin de Marine Le Pen. Ça n'est pas vraiment donc un fief lepéniste. Ouais. Et au second tour, Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen dans cette petite commune, 69%, là où il a fait 58% au plan national.
Où sont les LR? Parce qu'on imaginait, moi je m'attendais à ce que ce soit la droite républicaine qui arrive en tête dans le monde agricole.
Oui, avec les 4,8% de Mme Pécresse, je pense que...
Même chez les agriculteurs,
voilà,
ça pèse plus grand-chose.
Ça n'est pas possible. Il y a eu un déplacement vers Emmanuel Macron. Et jusqu'à une date très récente, en réalité, et c'est à vérifier pour le mois de juin prochain, les agriculteurs restent très attachés à l'Europe. À l'Union européenne, les 9 milliards d'euros que la PAC rend aux agriculteurs français au bout du compte, alors avec des contrôles interminables, des choses qu'il faut remplir, etc., on l'a dit, et c'est tous les reportages l'ont montré, mais enfin, c'est une chose fondamentale. L'Europe a sauvé très largement l'agriculture française et lui a permis de se développer. Et ça, les agriculteurs, ils restent dans cet état d'esprit.
Alors, bonnet jaune. Vous dites quand même, pardon, on ne l'entend pas beaucoup, on a plus l'impression aujourd'hui que l'Europe est en train de couler l'agriculture française, et vous nous dites le contraire.
Alors, sur le, je raisonne à plus longue distance. Le bilan de l'Europe est assez positif pour les agriculteurs. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un peu le sentiment d'être étranglés par l'ensemble des normes.
Le fameux Green Deal.
Voilà, le Green Deal, l'ensemble des choses, le sentiment d'être étranglés et de ne pas y arriver. Sur la question propre des bonnets jaunes, d'abord, un grand mouvement social, il doit avoir un élément identificateur. Voilà, les gilets jaunes, voilà, le bonnet jaune est fait pour rester dans l'histoire du mouvement agricole et d'être immédiatement identifié. Et dans tout ce que vous ferez sur la télévision, ça permettra tout de suite de faire la référence au mouvement. Maintenant, le Lot-et-Garonne, c'est la coordination rurale. Car il y a une bataille syndicale dans tout cela. Une très forte bataille syndicale, car début 2025, il va y avoir les élections aux chambres d'agriculture, où du coup, la FNSEA, alliée au CNJA, vont-ils garder leur position d'extrême force et la coordination rurale est considérée comme beaucoup plus proche du Rassemblement national. Donc vous avez des zones ponctuelles où, alors c'est comme à Agen ces derniers jours, où on voit une violence dans les affrontements qui reste quand même dans des proportions limitées, mais qui est très différente de ce qu'on voit dans le reste du pays. Le Rassemblement national, il pousse vers les élections européennes sur le thème « c'est l'Europe » qui nous gêne et qui nous ennuie et qui nous pose tous des problèmes. C'est la thématique. Mmh. Et du coup, les macronistes, et l'attaque du RN contre les macronistes, elle est assez forte. C'est-à-dire, à Bruxelles, vous votez tous les textes qui embêtent les agriculteurs et maintenant, vous envoyez le Premier ministre.
Pour détricoter ce que vous avez...
Finalement, il faut faire le contraire.
Ouais. Audrey Goutard.
Sociologiquement, il faut voir que le mouvement, les agriculteurs, ce ne sont pas des prolétaires, ce sont des petits chefs d'entreprise. Que vous ayez deux vaches ou que vous ayez...
La FNSEA, c'est pas la CGT.
C'est les responsables de leur production. Ce sont des patrons. Ce sont des patrons qui sont en difficulté, débordés, mais comme souvent les patrons de PME aujourd'hui, c'est exactement les mêmes problématiques, débordés par l'administratif, débordés. Et ils ne sont pas contre l'Europe. Il faut rappeler, par exemple, les céréaliers. La France est la cinquième puissance exportatrice en matière de céréales. Même ceux qui ont des difficultés aujourd'hui sont dynamiques. C'est-à-dire que
3 milliards d'excédents à l'export, les céréales.
Par exemple, voilà, exactement. Et donc, effectivement, vous avez affaire. Le gouvernement négocie là actuellement avec des gens qui sont maîtres de leur production, qui sont à la tête d'une petite entreprise. Et c'est effectivement la complexité pour ces agriculteurs de maintenir la pression par le biais de manifestations, parce qu'il y a un moment, il va falloir retourner travailler. Il y a les bêtes dont on s'occupe, les céréales, etc. Donc, effectivement, ils ont besoin de retourner bosser. Donc, là, on voit bien, ils se relaient, etc. Mais je me souviens, à l'époque des bonnets rouges, la précédente grosse manifestation, eh bien, sur les ronds-points, à un moment donné, le mouvement s'est soufflé parce que tout le monde repartait bosser.
Il y a l'entreprise, la PME à faire tourner. Aurore Gorius, question de Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi les paysans critiquent-ils l'Union européenne alors qu'ils dépendent de ses subventions? C'est vrai qu'on a vu samedi dernier Jordan Bardella sur une exploitation agricole dire « vous êtes victime de l'Europe et de ses normes et de l'Europe de Macron ». Et on a vu qu'aux Pays-Bas, les agriculteurs sont vent debout contre les normes de réduction d'azote qui font que le parti qui est arrivé en tête aux dernières élections législatives, c'est l'extrême droite. Peut-être en partie avec le vote des agriculteurs.
Alors, ça vient d'être dit, c'est-à-dire que je crois que les agriculteurs sont très très conscients de tout ce qu'a apporté l'Europe et c'est beaucoup, beaucoup de milliards qui sont reversés tous les ans, c'est quand même 30% du budget européen, c'est la PAC, la France est le premier pays qui en bénéficie, tout ça les agriculteurs le savent. Après, il y a les normes, ça a été dit, et puis il y a la volonté aussi de faire en sorte que la production agricole soit un peu plus verte, un peu plus écologique, et ça rajoute des contraintes. Alors,
Ils en veulent à l'Europe, quoi.
Ils en veulent à l'Europe.
Ils les transforment en jardiniers.
Et il y a l'impression de subir aussi, de subir des normes, des injonctions qui viennent d'en haut, qui sont difficilement applicables, et dans une situation en plus où beaucoup, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas maîtres de leur destin. Les décisions viennent d'en haut. Donc il y a cette impression de subir, c'est ce qui ressort de beaucoup de discours, subir la relation avec la grande distribution, comme on l'a dit, subir les injonctions ou les décisions européennes, les décisions gouvernementales. Le GNR, c'est pas l'Europe, hein. Le GNR, c'est une décision française. Devoir faire cette transition vers des choses plus vertes, parce que c'est l'avenir, mais en même temps, il n'y a pas les solutions à court terme, et ça va prendre du temps. Toutes ces injonctions-là viennent, sur le dos des agriculteurs qui, assez spontanément, sont descendus et se sont manifestés là depuis le début de l'année, et maintenant le mouvement s'est amplifié.
Et donc le RN a raison, ouais. Et ça peut fonctionner, son moissonnage chez les agriculteurs.
Il y a sans doute un terreau sur la colère. Le RN fleurit souvent sur la colère des uns et des autres. Mais ce qui a été dit aussi est très vrai, ça a déjà été dit, c'est que ce sont des chefs d'entreprise, ouais, qui par ailleurs ont un dialogue avec les institutions et savent que dans ce dialogue avec les institutions, avec le préfet, avec la mairie, avec l'État et avec l'Europe, tout ça est nécessaire à leur activité. Donc je pense que c'est une logique un peu différente du vote ouvrier qui a viré vers le RN ces dernières années. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Il faut se rappeler aussi que pendant très longtemps, la FNSEA a co-construit, a co-géré
le ministère de l'Agriculture.
Le ministère de l'Agriculture, et c'est encore un peu le cas maintenant, avec l'UDF, avec le RPR. Maintenant, il y a eu Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture. Maintenant, il y a Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, qui est très à l'écoute du secteur agricole, qui prend en compte beaucoup, beaucoup de choses. Et la Macronie a réussi comme ça à retisser des liens avec l'agriculture. Donc, en fait, ce dialogue, il existe.
En fait, là, à vous écouter, la FNSEA est beaucoup plus. On devrait la comparer à la CPME, hein, plutôt qu'à la CGT, quoi. C'est bien ça.
Ah, c'est pas la CGT clairement, du tout.
Voilà,
et c'est pour beaucoup de gros producteurs agricoles. Et puis,
c'est même le MEDEF. Quoi.
Voilà, c'est un peu le MEDEF aussi.
Thomas Porcher.
Il y a une forme d'ambivalence. C'est vrai que la majorité des exploitations sont subventionnées. Et là, des agriculteurs.
Les trois quarts du revenu des agriculteurs vient d'aide.
Mais bien sûr. Donc là, effectivement, l'Europe, heureusement qu'elle est là. Et puis en même temps, on voit aussi des propos, par exemple sur l'adhésion de l'Ukraine. Là, les céréaliers, je pense que ça ne leur fait pas plaisir qu'un producteur de blé puisse bénéficier du marché unique aussi facilement, avec encore une fois, on l'a dit, hein, des normes qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Donc il y a toujours cette espèce d'ambivalence qui est assez caractéristique de la France, hein, peut-être d'autres pays, mais en tous les cas en France, où c'est aussi la faute de l'Europe, mais c'est aussi parfois grâce à l'Europe. Et là, il y a un peu ça. On le voit aussi, moi, je trouve, chez les agriculteurs.
Alors, c'est l'autre... Oui.
Pardon, en poursuivant, effectivement, le RN, par exemple, de Jordan Bardella, a été sur une exploitation pour essayer d'attirer par son discours le monde agricole, et il a proposé une exception agricole, à l'instar de l'exception culturelle, donc un espèce de protectionnisme qui isolerait l'agriculture. Et ça a été très mal vu, en fait, ce terme qui se voulait, qui était fait pour être repris, n'a pas du tout été repris par les agriculteurs, et nos reporters qui étaient sur place voyez effectivement les agriculteurs qui assistaient à la réunion et qui étaient plutôt ouverts au départ se refermer parce qu'ils sont pour le libre-échange. Ils sont complètement eux-mêmes dans l'échange et pour pouvoir vendre au maximum et le plus loin possible leur production.
Ce sont des marchands, des petits patrons de PME, comme
vous le disiez. En fait, d'un mot, et toujours pour poursuivre, le Rassemblement national, ce n'est pas le monde agricole qui vise dans cette affaire, il ne l'aura pas. C'est la musique anti-européenne qu'il veut faire monter en vue des élections européennes, en prenant l'exemple de l'agriculture et de la douleur des agriculteurs pour dire « voyez l'Europe ce qu'elle nous fait ».
Alors, c'est l'autre actualité chaude du gouvernement cette semaine. Le Conseil constitutionnel a largement retoqué, comme on dit hier, le projet de loi immigration voté en décembre dernier. Le ministre de l'Intérieur se dit satisfait de cette décision des sages. La droite et l'extrême droite, elle, crient à la censure politique et accusent le pouvoir de les avoir roulés dans la farine. Sujet de Laura Rado et Aurélie Saner.
Il est environ 16h30 hier, quand le couperet tombe.
Les sages viennent de rendre leur décision.
La loi immigration amputée de plus d'un tiers par le Conseil constitutionnel.
Et donc à la une, le Conseil constitutionnel qui censure largement la loi immigration.
35 articles, sur les 86 que compte la loi votée par le Parlement en décembre, sont jugés partiellement ou totalement inconstitutionnels. Soulagement des associations opposées au texte.
32 articles censurés, tant mieux. Mais il y en a 85 qui n'avaient pas leur place. Ce projet de loi est un projet de loi inique. Et nous continuerons, nous, associations et organisations syndicales, à mener la bataille, notamment contre les décrets.
Des articles retoqués pour la plupart, car sans lien avec le projet de loi initial. Parmi eux, le durcissement des conditions d'accès aux prestations sociales, les restrictions au regroupement familial ou encore la caution retour pour les étudiants étrangers. Reste une loi amputée à 40%, mais dont l'exécutif, Gérald Darmanin en tête, se prétend satisfait.
On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est quand même 50 articles, dont les 26 articles du gouvernement. Jamais la République n'aura une loi aussi dure contre les étrangers délinquants. Fini les protections pour ceux qui sont arrivés sur notre sol il y a longtemps, mais qui commettent des crimes et des délits. Et jamais le gouvernement n'aura eu autant de moyens pour intégrer les personnes.
Désaveu ou victoire, la décision n'est en tout cas pas une surprise. Emmanuel Macron, conscient de l'irrégularité de certaines dispositions, avait lui-même choisi de saisir la haute juridiction après l'adoption de la loi. À droite, c'est une autre histoire. La censure concerne ces mesures. À la une du Parisien ce matin, la violente charge de Laurent Wauquiez contre les juges constitutionnels qu'il accuse de commettre un coup d'état de droit.
C'est le dévoiement de notre démocratie. Ce n'est pas l'état de droit qui est à l'œuvre, mais une idéologie qui consiste à abattre toutes les formes d'autorité, celle de l'État en premier lieu.
Des critiques virulentes auxquelles le président du Conseil constitutionnel répond ce matin.
Donc voyez comment ça fonctionne. Le Conseil est là, non pas pour rendre des services politiques, mais pour rendre une décision juridique. Ce n'est pas un choix que nous faisons. Nous avons obligation de regarder si, oui ou non, il y a un lien entre l'amendement et le texte initial. Mmh. Et quand il n'y a pas de lien, eh bien, nous sommes obligés de dire que c'est inconstitutionnel.
Pour celle qui s'était targuée de remporter une victoire idéologique en décembre, la censure des juges n'est que la preuve, dit-elle, de l'amateurisme et de la mystification du gouvernement. La solution pour l'extrême droite, un référendum constitutionnel.
On voit bien qu'on est totalement dans une dérive, un abus de droit du Conseil constitutionnel, mais sur la longue durée, que l'on savait. Marine Le Pen, Jordan Bardella avaient prévenu les Français, donc maintenant on est face au mur. La réalité, c'est qu'il faut consulter les Français par référendum pour qu'ils puissent réaffirmer leur volonté et leur souveraineté par rapport au pouvoir des juges, par rapport au traité européen.
N'en déplaise aux oppositions, les mesures validées par les sages pourraient être promulguées dans les prochaines heures, peut-être même depuis l'Inde, où Emmanuel Macron a débuté hier une visite d'État.
Alors, Audrey Goutard, question téléspectateur, c'est Alain. Après le verdict du Conseil constitutionnel, la loi immigration existe-t-elle encore? On sait que la droite est vent debout. Il y avait le député du Pas-de-Calais hier soir qui disait dans un langage fleuri « Nous sommes cocus
». Alors, c'est lui, député qui le LR, dit. Hein. C'est lui qui le dit. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, en tout cas, on dit bah, écoutez, c'est eux qui ont proposé ces textes de loi et qu'ils savaient très bien que ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Tant pis pour eux. Nous, l'essentiel de la loi est là. Et le président nous a demandé de mettre cette loi en action le plus vite possible dans les jours à venir. Hein. C'est Gérald Darmanin qui le dit. Dans les jours à venir, la loi sera appliquée. Donc, pour eux, leur loi, elle tient sur deux jambes. D'un côté, l'immigration. Choisi avec de travail et puis de l'autre côté effectivement la possibilité de faire de c'est ce qui était dit dans votre sujet d'expulser plus facilement notamment des délinquants sans papier. Donc voilà, c'est cette partie-là de la loi, elle va selon Gérald Darmanin et selon ce que le ministère de l'Intérieur a annoncé être mise en place tout de suite là maintenant.
Alors Aurore Gorieuse, diriez-vous bah, finalement que le gouvernement a bien manœuvré parce qu'il a fait adopter sa loi avec le concours des LR, mais sans les ajouts du LR.
Victoire tactique, peut-être. Victoire tactique contre LR, mais qui n'est sans doute pas une victoire politique, parce que, du coup, LR est remonté. Hein. On a vu les propos de Laurent Wauquiez, on a vu...
Alors, ils se vendent debout contre le Conseil constitutionnel, d'ailleurs,
oui.
En disant c'est un hold-up politique, et Laurent Wauquiez parle d'un coup d'État de droit.
Oui, mais c'est bien joué aussi de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a présenté, l'exécutif a présenté un texte de loi avec des mesures LR qui finalement tout le monde savait qu'elles allaient être censurées. Donc à la fin, LR se sent quand même un peu trahi. Et on va voir quelle sera la relation entre LR et la majorité toute relative dans les jours et dans les semaines à venir. Mais le dialogue risque d'être compliqué et les consensus et les compromis risquent d'être compliqués à trouver. Donc victoire tactique, politique sans doute pas. Et on peut se poser la question quand même de ce qu'a engendré ce débat, parce que finalement, ça a mis sur le tapis, ça a mis sur la table beaucoup, beaucoup de thématiques du Rassemblement national, et dans le débat public, et dans le texte de loi lui-même, même si après ça a été censuré. Donc finalement, d'un point de vue moral, en tout cas, il y avait hier soir un tweet de l'ancien ministre de la Santé qui a démissionné.
Aurélien Rousseau,
suite à la loi immigration, qui disait: l'honneur est sauf, mais les coups de butoir ne vont cesser maintenant. Et c'est ça la problématique à venir, sans doute.
C'est vrai que, Jérôme Jaffré, cette loi immigration, elle était soutenue par les trois quarts des Français qui, ce matin, se réveillent en disant « cette loi que vous appréciez, on ne va pas la faire à cause du Conseil constitutionnel qui dit « ce n'est pas possible ».
C'est très difficile à comprendre, effectivement, pour les Français, tout simplement, cette histoire de lien qu'il y a entre les amendements et le texte constitutionnel qui fait qu'on a considéré, comme pour le Conseil a considéré, que la plupart des articles ajoutés étaient hors du texte, très difficile à comprendre. Mais c'est par rapport au projet de loi que ça se juge. Le projet de loi, il faisait 27 articles. À l'arrivée, on a adopté une loi de 86 articles. En d'autres termes, les Républicains ont mis une autre loi dans la loi du gouvernement.
C'est ça qu'on n'a pas le droit de faire.
Et c'est ça qu'on n'a pas le droit de faire. L'amendement, il doit porter par rapport aux articles du projet de loi, et non pas rajouter, si vous voulez, une tonne de propositions dans la même chose. Et donc, LR est allé trop loin, tout simplement parce qu'on a commencé par adopter le texte au Sénat. L'erreur de la gauche a été qu'il n'y a pas eu débat à l'Assemblée nationale à cause de la motion de rejet préalable, que la gauche a voté, ce qui fait du coup que ses propres propositions ne sont pas venues en débat. Mais donc, il y a ce problème de lien, il est très complexe. Deuxièmement, Marine Le Pen parle de l'amateurisme du gouvernement. Moi, je parlerai d'un extraordinaire professionnalisme et même d'un véritable cynisme. On a fait voter une loi, on a mêlé dans la majorité ses voix, non seulement aux Républicains, mais au Rassemblement national, pour prendre des mesures et des articles. Après, on explique qu'on était à fond contre, mais on les a votés. Et donc ça aussi, en termes de bilan politique, c'est une tâche. C'est une tâche sur le pouvoir. Et puis ça aboutit à transformer la bataille politique gigantesque qu'on a eue au mois de décembre sur la loi immigration à une gigantesque bataille sur les institutions, la place du Conseil constitutionnel. Or, si, par exemple, prenons l'hypothèse où il y a une grande alternance en 2027, par exemple vers une candidate qui se présenterait pour la quatrième fois.
On a compris.
Et qui serait élue, le rôle du Conseil constitutionnel par rapport à la façon dont elle exercerait le pouvoir serait une question décisive. On voit bien dans cette affaire que la mise en cause du Conseil constitutionnel déséquilibre l'ensemble des institutions de la 5e. Parce que le Conseil, il est chargé, lui, de dire si la loi respecte la Constitution et si les libertés fondamentales et l'état de droit sont respectés. Si vous mettez ça en cause, effectivement, on aboutit à une situation où c'est tout l'architecture de la 5e République qui peut être mise à bas.
Thomas Porcher, en criant « haro » sur le Conseil constitutionnel, Xavier Bertrand, qui est LR, dénonce une dérive trumpiste de ses copains républicains.
Ouais, je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort. Je pense qu'en politique, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, en Argentine, c'est un peu la mode de remettre en cause des institutions. Et de, plutôt que d'aller sur un débat technique qui pourrait avoir lieu, pourquoi pas ? Moi, je suis pas un spécialiste, mais on peut aller sur un débat technique et dire, voilà, sur tel point, nous ne sommes pas d'accord pour telle ou telle raison. Mais là, le but, c'est vraiment de s'en prendre au Conseil constitutionnel et de s'en prendre aux institutions. On voit bien, parce qu'on se dit que ça va être plus simple d'être vent debout contre une institution ou de trouver un coupable tout de suite idéal, plutôt que d'aller sur le fond, en fait.
Audrey Goutard, vous vouliez
Non, ce que je voulais ajouter, c'est que on peut pas remettre en question une décision du Conseil constitutionnel. En revanche, on voit bien que dans les décisions, les mesures qui ont été censurées, ont été pour la majorité censurées sur la forme. Ouais. Libre ensuite à un parti politique de représenter un texte de loi.
De reprendre les mesures DLR, donc, d'en refaire une vraie loi bien chapitrée.
Et de ce... Donc le Conseil constitutionnel, oui, on ne peut pas le remettre en question, sa décision, mais néanmoins, à part trois mesures qui sont sur le fond. Remises en question totalement, mais sur la forme, il y en a 32 qui sont tout à fait disponibles, libres aux députés de reproposer une loi.
Alors, la situation sera la suivante. D'abord, Gérald Darmanin a d'ores et déjà dit que le gouvernement n'avait pas du tout l'intention de redéposer un projet de loi. Il y aurait donc les Républicains et le Rassemblement national pour voter ces mesures. Ça ne fait pas une majorité. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel, quand il dit que ce sont des cavaliers législatifs, il ne juge pas sur le fond.
Oui, c'est ça,
si donc une loi était votée avec, les mesures, par exemple, sur les prestations sociales, sur l'ensemble...
Le regroupement familial.
Voilà. Le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, jugerait sur le fond si c'est conforme à la Constitution, voilà, c'est-à-dire que nous remettrions une pièce dans la machine.
Ah ben oui, bien sûr.
Et donc, à mon avis, personne n'en a envie actuellement.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.